Vous écoutez France Culture.
Jacques Le Goff, les lundis de l'histoire. Notre émission ce matin va être consacrée à un monstre historique. Et pour en parler, nous allons parler de l'ouvrage qui présente cet homme monstrueux, bien connu, mais qui n'avait jamais été étudié et présenté avec à la fois le soin érudit, la vie et les perspectives de comparaison qui en font presque en même temps un monstre de notre époque qui, avec tous les procès, vrais ou faux, comme celui d'Outreau, peuvent nous faire penser que notre époque a fait des progrès regrettables dans la monstruosité, alors que cet ouvrage va nous montrer que nous avons probablement un pic de monstruosité avec Gilles de Rais, qui est le héros de cet ouvrage, un héros de la première moitié du XVe siècle, auquel l'auteur Matei Kazaku vient de consacrer chez Talendier ce remarquable ouvrage dont nous allons parler ce matin. Et pour en parler, pour en discuter, sont réunis autour des micros des lundis de l'histoire l'auteur Matei Kazaku, chercheur au CNRS, et notre invité Jacques Berlioz, qui est également directeur de recherche au CNRS. Matei Kazaku, est-ce que vous vous êtes fait un spécialiste des monstres, puisque vous avez déjà consacré un bel ouvrage que je regrette d'avoir manqué, de ne pas avoir présenté aux auditeurs de France Culture, sur un personnage qui appartient évidemment à l'histoire réelle et mythique du pays dont vous êtes originaire, la Roumanie, et qui était Dracula. Alors, de Dracula à Gilles de Rais, quel est votre parcours ?
C'est un parcours à la recherche des personnages historiques se cachant ou montant le bout du nez derrière les mythes que les contemporains, que nous sommes, acceptons parfois sans regarder plus attentivement, et que les hommes du Moyen-Âge ou même des temps modernes prenaient très au sérieux. C'est ainsi que je me suis occupé également du mythe de Frankenstein, l'homme artificiel, qui est aujourd'hui une grande banalité, puisque la plupart de nos contemporains sont faits de pièces ajoutées, et puis on parle de nous remplacer de plus en plus d'organes, de membres et d'autres parties du corps. Et j'ai cherché également les racines historiques d'un autre mythe, le joueur de flûte de Hameln en Allemagne, le Pied Piper, comme on l'appelait en anglais, et qui est également à l'origine une histoire vraie, une histoire de colonisation des territoires de la mer Baltique par des jeunes venant d'Allemagne au XIIIe siècle.
D'où l'intérêt exceptionnel de votre livre, qui n'est pas seulement la présentation d'un homme, un personnage historique, exceptionnel, fascinant et transformé en mythe précisément, mais qui est le prototype d'un type d'histoire, j'allais dire. Cette histoire que vous venez de très bien définir et qui est l'histoire qui se cache plus ou moins derrière le mythe et qui fait que l'historien, pour en rendre toute la vérité, toute la force, toute la signification doit se faire autant mythologue qu'historien, ce que vous avez fait. Et j'ajoute d'ailleurs, nous y ferons sans doute une rapide allusion, il y a aussi Barbe Bleue derrière Gilles de Rais, dans cette galerie de personnages mythiques, le plus souvent monstrueux, que vous avez évoqué. Jacques Berlioz, vous vous êtes intéressé à Gilles de Rais.
Avec Jacques Chiffolo, nous devons, je veux dire, nous devions, parce que malheureusement nous ne l'avons pas fait, mais nous devions préparer une édition du procès, une édition critique des pièces du procès de Gilles de Rais. J'espère que cela verra le jour. Mais je m'étais intéressé à un autre personnage tout aussi diabolique, mais qui n'a jamais existé, c'était Robert le Diable. D'où tout l'intérêt aussi que j'ai trouvé à cet ouvrage et à Gilles de Rais.
Mathilde Caracon, vous avez souligné, en historien complet que vous êtes, et par ailleurs formé à l'École nationale des chartes aux méthodes les plus rigoureuses de l'érudition, que l'histoire de Gilles de Rais, comme par une sorte d'écho, s'insère dans une des périodes les plus brutales de l'histoire de France. Vous pouvez évoquer en quelques phrases ce qu'est l'histoire de la France au moment où Gilles de Rais, dont vous indiquez que presque sûrement la date de naissance est 1405, et non pas 1404, qui sera brûlé en 1440. Qu'est-ce que la France, qu'est-ce qui se passe en France pendant cette période?
Écoutez, mes connaissances d'histoire française sont quand même faibles et lacunaires, mais il me semble qu'il n'y a pas eu de période plus désastreuse, plus catastrophique, plus dramatique que celle durant laquelle a vécu Gilles de Rais, cette seconde partie de la guerre de Cent Ans, quand la France est occupée par les Anglais et en plus victime d'une guerre civile. Il y a donc, en suivant les historiens sérieux, j'ai parlé des trois Frances qui s'affrontent. C'est la France anglaise, la France bourguignonne, c'est le duc de Bourgogne, c'est donc tout l'Est et le Nord de la France qui veulent imposer une certaine conception du royaume, de la monarchie, des relations politiques à l'intérieur du pays. Et puis, il y a la France du roi Charles VII, du roi de Bourges, ou du dauphin, comme il était surnommé, et qui est celle de la monarchie centralisée, basée sur des arrière-bases solides au sud de la Loire, et qui louvoie entre les deux, entre les Bourguignons, qui sont alliés des Anglais, qui ont des alliés temporaires, mais néanmoins qui poursuivent leur propre but, comme le duc de Bretagne, et au milieu se trouve également toute une portion de territoire qui est contestée sans arrêt, emportée dans des batailles, des sièges de châteaux, des destructions, dans laquelle joue justement sa vie, son destin, notre héros Gilles de Rais.
Et n'oublions pas qu'il y a une invention plus ou moins récente, mais qui en tout cas fait pendant cette période son entrée en force dans la guerre, la rendant souvent encore plus dure, c'est l'artillerie.
L'artillerie qui permet justement la multiplication des sièges de châteaux, de forteresses, de villes, et qui transforme justement cette guerre. Un autre héros dont je me suis occupé et qui se cache lui aussi derrière un mythe, Sir John Fastolfe, plus connu sous le nom de Falstaff, depuis Shakespeare, écrivait en 1435 que la guerre avait changé de formule. La guerre anglo-française avait commencé par des grands raids de cavalerie. Lui, il appelait ça donc des lances, des groupes de lanciers qui passaient de Normandie jusqu'en Gascogne, aux alentours de Bordeaux, en pillant, détruisant, prenant les gens et les hommes et les femmes, les enfants comme prisonniers. Et de la sorte, ces destructions-là permettait de briser le moral de la population par les famines, les épidémies, etc., qui s'en suivaient. Maintenant, c'était l'époque des sièges.
Et nous allons voir que ce personnage, qui est malheureusement devenu historique essentiellement par son procès, par sa mort, par les crimes qu'il a finalement avoués, a été aussi un participant très positif, si je peux dire, très glorieux, de l'épisode le plus dramatique et le plus glorieux pour la France de cette période, qui a été la levée du siège d'Orléans par les Anglais en 1429, grâce à Jeanne d'Arc et Gilles de Rais, ce tueur en série criminel, a d'abord été un soldat aux côtés de la Pucelle.
Oui, on pourrait, si on ne craignait pas trop les anachronismes, dire de lui qu'au départ, c'était un vrai patriote. C'est un grand seigneur qui, évidemment, commence par défendre ses seigneuries, ses biens, qui sont situés en Anjou, région qui est justement attaquée par les Anglais, avec le Maine, et après la conquête de la Normandie, alors que le gros de ses propriétés se trouve en Bretagne, où il est à l'abri. Eh bien non, lui, il n'accepte pas les louvoiements du duc de Bretagne, qui, par ailleurs, mène sa propre politique, on pourrait l'appeler une politique bretonne indépendante, mais répond à l'appel de son roi et de sa duchesse, donc la duchesse d'Anjou, qui est belle-mère du roi Charles VII, et qui fait appel à toutes les forces pour défendre l'Anjou. L'Anjou est une pièce importante, tout d'abord à cause de la Loire, à cause du commerce qui parcourt donc cette région. Et puis, c'est un verrou qui empêche les Anglais de Normandie de passer au sud de la Loire. Un des nombreux verrous sur lequel ils se cassent les dents.
Effectivement, je veux simplement ajouter que Gilles de Rais n'a jamais trahi le roi et que même ruiné, même mal récompensé par le roi de France, même mal à l'aise dans la paix, eh bien, il n'a jamais adhéré aux complots qui ont eu lieu contre le roi, qui ont mené à la praguerie. Il n'en fait pas partie et il soutient le roi. C'est donc effectivement, je veux dire, jusqu'au bout, un vrai patriote.
Un terme banal me vient à l'esprit, mais je crois tellement vrai avec Gilles de Rais, c'est un personnage d'une extrême complexité. Matéi Kazakou, familialement et socialement, d'où sort et comment se situe Gilles de Rais?
Je pense qu'on peut le dire sans hésiter qu'il fait partie de la haute aristocratie, de la haute noblesse française, aussi bien bretonne qu'angevine, avec des relations jusque dans des grandes familles comme les Lusignan, de la famille Lusine, qui vous est chère, et qui sont d'ailleurs nommés par une de ses grand-tantes des royaux. Donc il s'agit là de connexions, d'alliances généalogiques très importantes qui lient aussi bien sa famille à lui, qui est la famille des Laval, devenue comte en 1429, mais c'est une autre branche, que celle des Caen, que celle de Ré, dont il a pris le nom par l'adoption de son père, faite par la dernière héritière. Il s'agit donc, d'après ses revenus que j'ai calculés, je me suis amusé à calculer en francs et en euros le montant de ses revenus et de son patrimoine. Eh bien, il gagnait à peu près ce qu'un bon PDG français gagne aujourd'hui, entre 2,5 millions et 3 millions d'euros par an, qui n'était pas sujet aux impôts ni aux fluctuations de la bourse. Donc, de ce point de vue, il était très bien loti, en plus de sa quarantaine de châteaux avec leur arrière-pays, leur village, leur paroisse, etc. Cela faisait quand même une belle fortune. Et même pour son temps, et là aussi, j'ai pas poussé les recherches trop loin, mais finalement, j'ai établi quelques points de comparaison. Il n'était pas mal du tout, je dirais même qu'il était très aisé.
Alors, la jeunesse, les problèmes essentiels et qui intéressent l'historien pour comprendre un personnage, il y a celui de l'éducation, il y a celui des parents et éventuellement des grands-parents, et puis après ce moment dont les troubles étaient particulièrement soulignés au Moyen-Âge, le moment de l'adolescence, il y a le problème du mariage qui en général se pose très tôt dans la noblesse médiévale. Alors, sur ces points, que peut-on dire de Gilles de Rais ?
On peut dire qu'il a eu une enfance normale jusqu'à l'âge de 9-10 ans, entouré par l'affection de ses parents, grand seigneur, avec deux précepteurs, deux ecclésiastiques, Georges de Boussac et Michel de Fontenay. Et jusque-là, rien d'extraordinaire. À l'âge de 9 ans, il perd sa mère et un an plus tard, son père meurt à son tour. Il reste donc orphelin des deux à l'âge de 10 ans, avec un frère cadet qui a à peine un an, et il est à ce moment-là élevé par son grand-père contre la volonté de son père, exprimée par son testament, au château de Chantossé, donc sur la Loire. Et là, évidemment, on a beaucoup parlé de ce grand-père, Jean de Caen, un fauve, on l'appelait, évidemment, c'était un grand seigneur qui ne rigolait pas quand il s'agissait de défendre ses biens, de vendre ses vins à Nantes, de faire payer les bateliers sur la Loire. Il y a des procès qui avait commencé avant lui d'ailleurs, et qui est aussi un des grands chasseurs de France. Il fait partie des 13 plus grands chasseurs de son époque. Il est vanté comme tel dans un traité. Et donc ce grand-père le prend à son château. Mais là, c'est une façon de le perdre dans une masse, dans un groupe. C'est évidemment le groupe familial, puisqu'il y a aussi la grand-mère, l'arrière-grand-mère d'abord, puis ce grand-père. Mais il y a surtout, je dirais, l'absence d'affection, l'absence de chaleur aussi bien maternelle que paternelle. Et puis, ce n'est pas le grand-père qui était à même de l'éduquer, vu qu'il chasse ses deux précepteurs, et le laisse livrer à lui-même. J'ai l'impression que c'est là le secret de ce, enfin, du moins, c'est ce que le dit lui-même, Gilles de Rais, dans ses confessions. Il parle donc de son enfance et le début de sa jeunesse, donc ça nous situe justement entre 10-15 ans, livré à lui-même. Et, dit-il, il était de nature, en latin, c'est toujours délicate, le terme délicate qui ne signifie plus du tout la même chose aujourd'hui. On devait dire voluptueux, élégant, luxueux. Or, c'est à partir de là, dit-il, qu'il a abandonné à lui-même et sans responsabilité, il le dit et il le répète en s'adressant aux parents, qu'il a fait tout ce qui lui passait par la tête et donc des crimes à feu, etc. C'est-à-dire tous les excès d'une adolescence dont nous voyons encore aujourd'hui sur les écrans de la télévision, les excès. Les suites et puis les manifestations. Bon, il ne brûlait pas de voiture à cette époque-là, mais il avait peut-être d'autres moyens d'exprimer ce genre de penchant qui était, nous disent les psychologues, surtout un cri, un appel, parce qu'il y avait absence de modèle paternel, il y avait absence de chaleur, et donc c'était un cri réclamant de l'amour, d'une éducation.
Oui. Jacques Berlioz ?
Oui, et quand Jean de Caen s'occupe de lui, c'est pour l'associer à des pillages, à des enlèvements, et donc ce n'est pas un modèle très éloquent qu'il lui propose.
Quand même, en 1420, donc lorsque Gilles a 15 ans, ils défendent leur duc, qui s'est fait enlever par des adversaires, la branche des Penthièvres, des ducs de Bretagne, et ils ont donc, de nouveau, ils ont des pertes, des châteaux leur sont pillés, occupés, mais ils sont toujours placés du bon côté. C'est toujours la fidélité à leur duc, à leur souverain. De ce point de vue, ils sont tous les deux exemplaires.
Alors, il y a donc, si nous regardons l'histoire de Gilles de Rais de l'extérieur, une période qui semble dominée par les entreprises militaires et qui semble brillante. Il y a non seulement un rôle que les sources disent volontiers importante auprès de Jeanne d'Arc lors du siège d'Orléans, et puis il semble ce qui paraît avoir été un peu le sommet de sa vie sociale et militaire, il fait partie des seigneurs de l'entourage de Charles VII quand, après la levée du siège d'Orléans, celui-ci est sacré à Reims en 1429 et il est fait par le nouveau souverain maréchal de France.
Maréchal de France a 24 ans, même si la fonction n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui, évidemment, c'était quand même la reconnaissance de grands mérites qu'il avait d'ailleurs manifesté depuis plusieurs années, de son attachement à la cause du souverain, parce qu'il combattait les Anglais depuis au moins 1423, donc à l'âge de 18 ans, et on peut dire que à partir de 20 ans, lorsqu'il devient majeur et donc hérite de toute son extraordinaire fortune, il consacre une grande partie de ses revenus à armer une belle compagnie, comme disent les contemporains, de l'Anjou et du Maine, qui fait belle impression à Chinon, où se trouve le roi, à l'automne 1429, timoré, effrayé, craignant justement à la suite de la mise du siège d'Orléans par les Anglais que sa fin approche.
Et le premier texte que vous proposez à nos auditeurs, ce sont précisément les lettres patentes de Charles VII de septembre 1429 faisant Gilles de Rais, maréchal de France.
Charles, par la grâce de Dieu, roi de France, savoir faisons à tous présents et à venir que nous, ayant en mémoire les hauts et recommandables services que nous a fait et fait de jour en jour dans nos guerres et autrement notre aimé et fidèle chevalier, conseiller et chambellan Gilles, sieur de Rais, maréchal de France, et les grands périls et dangers auxquels, pour notre propre fait et querelle, et pour la conservation de notre couronne et seigneurie, il a exposé maintes fois et moult chevalereusement sa personne en bien, démontrant sa vaillance et bonne affection, comme à la prise du Lude et autres plusieurs beaux faits, à la levée du siège que tenait naguère devant la ville d'Orléans les Anglais, anciens ennemis de notre royaume et seigneurie, à la journée aussi et belle bataille de Patay, où après le 10 siège levé, nos 10 ennemis ont été déconfits. Haï celui, sire de Rais, pour ses causes et considérations, et plusieurs autres, à ce nous mouvant et à cette intention que de ces 10 recommandables services soit mémoire perpétuelle, avons de notre certaine science octroyé et octroyons de grâce espéciale, pleine puissance et autorité royale, par la teneur de ses présentes, que pour l'anoblissement de ses armes et accroissement d'honneur, pour lui, sa postérité et maison, il puisse et lui soit loisible de porter à toujours, mais à l'écusson de ses dites armes, un orle de nos armes, en lequel aura fleur de lys semée sur champ d'azur, ainsi et par la forme et manière qu'il est en cet endroit portraituré, figuré et armorié, et que ses présentes, pour majeure approbation, soient enregistrées en la chambre de nos comptes et au trésor de nos chartes et partout ailleurs où il appartiendra, si bon semble, aux 10 sieurs de Rais, et ils le requièrent. Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre à ces dites présentes notre sceau. Donné à Sully-sur-Loire au mois de septembre, en l'an de grâce 1429, et de notre règne le septième.
Matéi Kazakou, vous distinguez, pendant la dizaine d'années au fond, qui constitue l'activité militaire de Gilles de Rais, une première période qui est une période très active, qui est une période dans laquelle il est compté parmi les capitaines importants du royaume. Et puis va venir ce que vous appelez la disgrâce et la ruine. Et comment et pourquoi ?
Durant toutes ces 10 années de guerre, je compte donc 1422-1432-33, Gilles de Rais, tout comme son grand-père, ont assuré de leur propre denier la levée, l'entretien, l'équipement et le train de vie des troupes, des hommes qu'ils amenaient pour servir soit la duchesse d'Anjou, soit le roi. Et ces dépenses nous sont connues par le mémoire des héritiers, étaient très importantes. Très importantes parce que Gilles de Rais avait, nous dit-on, un train de vie de prince plutôt que de baron. Ce train de vie augmente. Du moment où nommé maréchal de France par le roi, ils se sont obligés d'entretenir davantage de troupes. Et il faut dire que le trésorier du roi payait peu, tard, et souvent pas du tout, ces grands seigneurs qui amenaient leurs propres troupes. Les témoignages de l'époque sont unanimes. Ils nous disent que les gens venaient servir le roi, servir Jeanne d'Arc, mais ils étaient peu payés ou pas du tout, à leurs propres frais. Or, je me suis livré à quelques calculs pour voir ce que coûtait l'entretien de la troupe que Gilles de Rais avait en 1429-30 et qui dépassait de loin ses revenus annuels. Donc, du coup, l'homme est obligé, et on le voit très clairement, lorsqu'il est à l'apogée de son pouvoir en 1429, donc il est maréchal de France, c'est là qu'il commence à vendre des terres pour pouvoir payer ses hommes. Et ces ventes prennent donc un tour de plus en plus rapide et surtout sont très souvent faites à perte, puisque qui vend sous la pression du temps et des nécessités vend à perte. Et il se fait donc souvent
juger. Il y a une très bonne analyse, comme dans l'ensemble de votre livre, de cette dégringolade financière de Gilles de Rais. Vous venez d'indiquer une des principales raisons de la prodigalité de Gilles de Rais, qui est d'entretenir et de payer des hommes d'armes et de mener une vie fastueuse. Vous indiquez aussi son goût pour la musique, qui lui fait entretenir une chapelle qui lui coûte beaucoup, de même, semble-t-il, que son goût pour le théâtre. Et il aurait été le commanditaire d'un texte dont il vient d'y avoir une très intéressante réédition, Le mystère du siège d'Orléans, dans lequel il est évidemment un des personnages importants. Et pour finir, il se serait intéressé à l'alchimie et aurait gaspillé une partie de ce qui lui restait d'argent à la recherche de la pierre philosophale.
Oui, on pourrait le voir comme un seigneur de la Renaissance, un homme curieux de tout, grand mécène. Les dimensions de sa chapelle, donc de son orchestre, tout comme de sa troupe de théâtre, ou du moins des spectacles dont nous savons qu'il a payé non seulement les décors, les costumes, les interprètes, mais aussi la nourriture et la boisson des spectateurs, tout ceci donc s'inscrivent dans une ouverture d'esprit qui lui fait honneur, on pourrait dire. Ça, c'est un homme des temps nouveaux, tout en vivant dans les temps les plus épouvantables qu'on puisse imaginer. Évidemment, l'alchimie, aujourd'hui, ça fait sourire, mais à l'époque, pour lui, c'était peut-être le dernier espoir de refaire une partie de sa fortune dilapidé, je le répète, sur les champs de bataille pour servir son roi et aussi, évidemment, pour le théâtre, pour la musique et puis pour le personnel de sa maisonnée.
Bon, nous venons de faire allusion à la ruine qui est en train de se préparer. Mais il y a pire. Il y a la catastrophe finale. Et la catastrophe finale, ça va être un procès extraordinaire et finalement la mise à mort par la justice du personnage en raison de ce que ce procès a révélé. Vers la fin des années 30, Gilles de Rais a des problèmes avec l'Église, et en particulier, semble-t-il, avec l'évêque de Nantes. Et ses relations ne sont pas excellentes avec le clergé. Et puis, il y a ce que vous appelez un dernier coup d'éclat, c'est-à-dire une très brutale agression qui va amener une intervention définitive de l'Église.
Emmêlé dans les affaires, obligé de rembourser des créditeurs, de payer à droite et à gauche, Gilles de Rais ne trouve plus d'acheteur pour ses terres à partir de 1435, lorsque le roi, fortement donc appuyé par la famille de Gilles, le met sous interdit et interdit à quiconque de passer des contrats avec lui. Donc l'homme est mis au bord de la société et nul n'a le droit d'acheter, d'échanger, de vendre quoi que ce soit des biens de Gilles de Rais. Il y a quand même un personnage qui fait exception, c'est le duc de Bretagne. Jean V fait de nouveau figure à part. Il s'estime roi dans son duché et il estime que, vu les difficultés de Charles VII, il peut se permettre de se maintenir à l'écart des lettres d'interdiction et de ne pas les appliquer dans son duché. Et qui plus est, il nomme Gilles de Rais son lieutenant, ce qui est une fonction très importante, et continue donc à avoir des relations avec lui et à lui acheter des terres et surtout des châteaux. Il s'agit des deux forteresses qui étaient les plus importantes de son héritage, un grand et Chantossé qui contrôle la vallée de la Loire.
Mais donc, finalement, l'Église intente un procès et comment les choses se passent-elles?
L'Église n'intervient jusque-là pas du tout, jusqu'au jour où Gilles de Rais entre à cheval dans une église un dimanche en plein milieu de la messe.
Un jour de Pentecôte en
plus. Bon. Et fait sortir le prêtre qu'il menace sinon de mort avec une hache. Au milieu donc de l'office. C'est un acte inimaginable. Ceci ne s'était plus vu depuis l'époque des barbares. Et donc, à partir de ce moment-là, il tombe sous les foudres de l'Église, puisque l'évêque de Nantes et le duc, évidemment, de Bretagne ne peuvent permettre qu'un grand féodal, même si c'est le premier baron de Bretagne, ou le second, selon certains, se permette un tel affront. Donc, rien que ce sacrilège, puisque c'est un sacrilège, de lever la main sur un ecclésiastique et d'entrer dans une église armée et de faire des actes de brutalité, rien que ce sacrilège l'aurait mis donc entre les mains de la justice ecclésiastique et il aurait eu droit à une sanction sévère, c'est-à-dire à une pénitence au pain sec et à l'eau pour quelque temps dans un couvent. Puisque l'Église ne prend pas la vie, ne donne pas des peines de mort, mais seulement des peines spirituelles. Et donc, à partir de ce moment-là, l'évêque de Nantes prépare un procès de type inquisitorial contre lui, et nous savons par les premiers documents qu'en fait, ce n'est pas tellement le sacrilège commis par Gilles de Rais qui forme, si on peut dire, la matière la plus importante de ce procès, mais ce sont justement la pédophilie, les assassinats d'enfants et la chimie, les invocations.
Comment cela arrive-t-il à jour ?
J'ai essayé d'expliquer ceci par la collaboration avec la justice de l'évêque de Nantes, de Stage Blanchet, un ecclésiastique qui est un familier de Gilles de Rais et qui est le seul à échapper à la punition tout en faisant partie du cercle des intimes de notre homme. C'est donc au mois de septembre 1440, quand Gilles de Rais vient à peine d'avoir 35 ans, que la justice lui acquiert du moins l'assurance et rend public un acte d'accusation très, très grave qui l'accuse d'hérésie, de sacrilège et de crime de lèse-majesté, d'assassinat, viol et assassinat d'enfants et alchimie. C'est donc tout d'un coup, un coup de tonnerre qui étonne parce que rien de cela n'était visible, rien de cela, personne n'en parlait, il n'y a aucune voix qui se soit élevée.
Alors, sur cette pédophilie et ces assassinats d'enfants, sans entrer dans des détails dont certains sont épouvantables et que l'on peut lire dans l'acte d'accusation, est-ce que vous pouvez quand même donner une idée de l'importance du nombre que...
Oui. Georges Bataille, qui a traduit et commenté les actes du procès ecclésiastique de Gilles de Rais, tout comme du procès civil d'ailleurs, puisqu'il y a eu deux procès, donne comme un minimum 35 victimes d'enfants dont les parents ont été identifiés en tant que témoins. Donc des parents qui ont déposé plainte et qui nous donnent les noms et l'âge de ces enfants.
C'est-à-dire, ce sont des enfants qui sont violés et tués.
Voilà, et enlevés, souvent enlevés, et qui ont de 7 à 15 ans. Ceci déjà nous place dans une dimension importante. D'autre part, au cours du procès, on est arrivé à des chiffres plus importants, 160 dans le procès ecclésiastique, plus de 200 dans le procès civil, sans plus de précision. Mais en fait, on ne saura jamais.
Sans vous demander encore votre opinion, je voudrais maintenant que Jacques Berlioz, qui, je crois, prépare, comme nous l'a dit, une éventuelle édition avec Jacques Chiffolo de ses textes, ce qu'il pense de cet ensemble d'accusations. Pour nous, il y a des choses qui vont difficilement ensemble. En particulier, lèse-majesté et violation et mort d'enfant. Comment ça s'explique juridiquement et psychologiquement, si je peux dire, cet amalgame judiciaire?
Oui, mais ce qu'il faut voir, c'est que lorsque les juges arrivent, lorsque les inquisiteurs arrivent, en Vendée, ils font une enquête qu'on appelle de diffamation, c'est-à-dire qu'ils vont écouter la rumeur, ils vont recueillir des témoignages, mais il faut faire là très attention, c'est-à-dire qu'ils arrivent avec une grille constituée. Une grille constituée, c'est-à-dire qu'il y a eu sacrilège, ça veut dire qu'il y a eu rébellion, et cette rébellion, elle est à la fois contre Dieu, et elle est à la fois contre le roi, c'est-à-dire contre le pouvoir public. Et depuis le XIIIe siècle, c'est ce qu'on appelle le crime de lèse-majesté, hein, en renouant avec le droit romain. Et lorsque les inquisiteurs arrivent, pensent précisément qu'il s'agit de rébellion, eh bien, je veux dire, aussitôt, ils font le lien avec... les crimes contre la nature, c'est-à-dire notamment la sodomie. Il pense également au pacte avec le diable, hein, et c'est ce que Alain Bourreau d'ailleurs a montré dans son livre récent sur Satan, en montrant que justement, lorsqu'on pense à la rébellion, on pense aussitôt au pacte avec le diable. Et puis on pense également à l'homicide. C'est-à-dire, cela fait un tout. On ne peut pas dissocier... Et là, il faut toujours se mettre dans l'esprit des inquisiteurs. On ne peut pas dissocier la sodomie, enfin, ce qu'on appelle la sodomie, le pacte avec le diable, les homicides. Tout ça, c'est un rebelle. Hein. Et d'ailleurs, c'est un peu la même chose lorsque les inquisiteurs interrogeaient les cathares, les hérétiques. Ils avaient déjà une construction à eux et ils construisaient en quelque sorte l'hérésie. Eh bien là, ils construisent aussi Gilles de Rais.
Alors, parmi les questions que vous posez d'ailleurs, d'abord, pourquoi l'évêque de Nantes a-t-il attendu si longtemps, alors que, semble-t-il, les rumeurs circulaient depuis assez longtemps ?
Voilà une excellente question. Il faut croire, c'est du moins l'opinion des historiens qui se sont occupés de ce sujet, c'est qu'il attendait... la ruine définitive de Gilles de Rais et la vente de toutes ses propriétés, de tous ses biens, au duc de Bretagne. Seulement, la coutume bretonne interdisait au duc d'acheter les biens de ses vassaux et il fallait trouver des voies, donc des moyens.
Puisque l'évêque de Nantes est en même temps chancelier de Jean V, du duc de Bretagne.
Voilà, il est chancelier.
Donc, il y a un lien entre le séculier et l'ecclésiastique.
Est-ce qu'on peut dire que, selon les règlements de l'époque, le procès s'est déroulé régulièrement ?
Évidemment, nous connaissons le déroulement du procès seulement des témoignages qui nous sont et des actes qui sont conservés. Il existe des témoignages des deux pourvoyeuses, par exemple, ou d'autres serviteurs de Gilles de Rais qui ne sont pas connus. Et il y a surtout ce qui manque le plus. C'est l'atmosphère, je dirais. Cet homme est donc un grand seigneur qui commence, qui est très fier, qui est... tout de suite, il recuse ses juges. Il les traite de simoniaque et ribaud. Et du coup, il se fait excommunier. Enfin, l'excommunication le rend tout de suite beaucoup plus malléable. Mais on peut s'imaginer que le mois et demi qu'il a passé dans la tour du château de Nantes, a contribué aussi à ce fléchissement de sa personnalité. Il y a évidemment la théorie de ceux qui disent, et je pense qu'ils ont raison, que le serial killer aime se vanter de ses faits, et que donc, après avoir nié au départ, Gilles de Rais a tout avoué, et non seulement avoué, mais s'est érigé en conseiller pédagogique et donner des leçons aux parents et aux assistants. Donc, je crois que nous ne saurons jamais, puisque nous ne connaissons pas les détails de la vie de tous
Alors,
les jours.
Je voudrais maintenant dire, avant que nous en venions à un dernier point, que nous serons obligés malheureusement de traiter rapidement, que, après avoir longtemps résisté, comme vous l'avez rappelé, Gilles de Rais passe aux aveux. Il passe aux aveux. C'est le 22 octobre 1440. Nous allons écouter un extrait de ses aveux.
Gilles de Rais confessa spontanément et déclara qu'il avait commis et perpétré d'autres grands et énormes crimes, iniquement, depuis le commencement de sa jeunesse, contre Dieu et ses commandements, et qu'il avait offensé notre Seigneur du fait du mauvais gouvernement qu'il avait eu dans son enfance, où sans frein, il s'était appliqué à tout ce qui lui plaisait et s'était complu à tous les actes illicites. Et il pria ceux des assistants qui avaient des enfants de les instruire dans les bonnes doctrines et de leur donner l'habitude de la vertu pendant leur jeunesse et leur enfance. Et pour que la dite confession secrète fût confiée à la mémoire des hommes dans de meilleures conditions, il a plu au même Gilles, accusé non de la diminuer, mais plutôt de la fortifier et de la renforcer. Et il demanda que la dite confession, pour tous et pour chacun des assistants, dont la majeure partie ignorait le latin, fut publiée en langue vulgaire et que la publication et la confession des délits perpétrés leur fussent exposés pour sa honte, afin qu'il obtînt plus facilement la rémission de ses péchés et la faveur de Dieu pour l'abolition des péchés commis par lui. Il dit qu'au temps de sa jeunesse, il avait toujours été de nature voluptueuse et qu'il avait, pour son plaisir et selon sa volonté, fait tout le mal qu'il pouvait et qu'il mettait son espérance et son intention dans les actes et les choses illicites et malhonnêtes qu'il faisait. Il priait et exhortait très affectueusement les pères, les mères, les amis et les proches de tous les jeunes gens et de tous les enfants de les gouverner dans les bonnes mœurs, suivant les bons exemples et les bonnes doctrines, et de les instruire là-dessus et de les châtier de peur qu'ils ne tombassent dans le piège où il était lui-même tombé. Par laquelle confession secrète qui, en la présence du dit Gilles, fut lue en jugement et publiée et par lui approuvée, le dit Gilles de Rais, accusé volontairement et publiquement devant tous, confessa que, pour son ardeur et sa délectation sensuelle, il prit et fit prendre un si grand nombre d'enfants qu'il ne saurait le préciser avec certitude, lesquels il tua et fit tuer, avec lesquels il commit le vice et le péché de sodomie.
La sentence, qui est une sentence de mort, est rendue le 25 octobre et le lendemain ou deux jours après ?
Le lendemain,
Gilles de Rais est pendu, puis brûlé. Votre ouvrage, nous en arrivons à cette partie qui, je dois le dire, m'a le plus étonné dans un sens admiratif, parce que vous établissez une comparaison entre le procès et surtout l'attitude de Gilles de Rais et ce que les spécialistes modernes, criminologues, psychiatres, etc., ont établi à propos des serial killers. Et alors il y a là, je crois, une étude transséculaire, si je peux dire, qui est d'un puissant intérêt et qui est malheureusement trop rare, peut-être, dans l'historiographie. Jacques Berlioz, qu'est-ce que vous pensez de cette présentation du serial killer?
Elle est très intéressante parce que, elle peut peut-être être atteinte par la critique d'anachronisme. Hein. On se dit un serial killer, exactement. Ce sont la civilisation plutôt américaine, enfin ou au moins occidentale. Et donc, est-ce que cela est possible par cet anachronisme volontaire? Cela permet d'attirer l'attention, et le lecteur le verra tout de suite, vers des points auxquels on n'avait pas pensé. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Évidemment, au-delà, on peut toujours réfléchir et introduire un débat, puisque si l'on compare Gilles de Rais à un serial killer, est-ce que cela veut dire que l'on pense que l'esprit humain est universel, c'est-à-dire qu'il y a un archétype, une structure commune de serial killer, commune à toute l'humanité, transhistorique, un a priori sur le plan mental et vital? Donc, est-ce qu'il faut privilégier cela ou au contraire, il faut privilégier la notion de structure mentale avec des traits archaïques, par exemple pour Gilles de Rais, de noble du XIIe siècle? C'est un problème auquel il est difficile de répondre, mais que Matei Kazoku soulève très bien et qui force à réfléchir.
Je vais vous poser maintenant la question très banale que doivent se poser beaucoup de nos auditeurs. Est-ce que cette culpabilité de Gilles de Rais est vraie et croyez-vous à tous ces crimes ?
Écoutez, j'ai beaucoup hésité à prendre parti. J'ai préféré écrire le livre tout en ayant bien sûr en tête les arguments pour et contre et les textes. Et puis finalement, tandis que le récit coulait un peu et que je me détachais de lui, je suis arrivé à la conclusion que oui, il était coupable. Et il me semble comme élément très décisif une lettre de Charles VII de 1446, par laquelle, c'est une lettre de rémission, donc par laquelle il pardonne à Roger de Bricqueville, un bague cousin de Gilles de Rais, tous ses crimes, et surtout le fait que c'est un complice de Gilles dont il a eu connaissance, et donc avec lequel il a participé donc, à tous ses crimes, que le roi répète, et ce, en 1446, à une époque, donc 6 ans après la mort de Gilles de Rais, 4 ans après la mort du duc et du chancelier évêque de Nantes, Jean de Malestroit, et à un moment où le gendre de Gilles de Rais, régent de Coëtivy, amiral de France, essayait de récupérer l'immense fortune de son beau-père avec, justement, comme justificatif, que c'était un procès inique et que Gilles n'a pas eu droit à un appel. Il n'a pas pu faire appel de la sentence et que donc le procès, du coup, devenait caduque.
Jacques Berlioz, vous aussi, vous votez coupable ?
Comment la vérité s'est construite à propos de lui ? Jacques Chiffolo a pu dire que le monstre était né moins de sa psychologie, moins du désordre social, mais du système judiciaire qu'il aurait constitué comme monstre. Peut-être difficile d'aller jusque-là, mais c'est vrai qu'il faut relire. Et là, le livre de Matei Kazaku est vraiment un outil prodigieux pour le faire, pour essayer de, finalement, comment est-ce que les choses, comment est-ce que la vérité s'est construite dans ce procès.
Alors, tout semble fini, si je peux dire, pour Gilles de Rais, pour son historien, s'il y avait une suite curieuse que vous traitez d'une façon également très remarquable, et nous n'avons malheureusement le temps que de l'évoquer. C'est que, au XVIIe siècle, à la fin du XVIIe siècle, le célèbre conteur Charles Perrault évoque aussi un serial killer, mais en apparence tout différent, qui est Barbe Bleue. Un tueur, non pas d'enfant, mais de femmes. Et ensuite, à la fin du 19e et au début du 20e siècle, les mythologues vont faire un rapprochement et vont imaginer que le Barbe Bleue de Charles Perrault, c'est le Gilles de Rais, en quelque sorte ressuscité et transformé. Qu'en pensez-vous ?
Je pense qu'il y a eu là un télescopage entre un fait historique et un personnage historique, Gilles de Rais, et un mythe qui est le mythe du tueur de femmes, beaucoup plus ancien et universel évidemment, et que ce télescopage s'est fait en grande partie dans l'ouest de la France, Bretagne, Anjou, Vendée, Charente jusqu'aux Pyrénées. Et dans ce télescopage, ce qui a compté a été le maintien de la mémoire des crimes de Gilles de Rais, dont le nom est oublié très rapidement, mais il est attaché à ses châteaux, Tiffauges, Pouzauges, La Motte-à-Char, etc., Chantossé, sont des liens, sont des monuments sur lesquels peut s'accrocher la mémoire collective. Et d'autre part, il y a le mythe du tueur de femmes vers lequel glisse le personnage historique parce que, selon les règles de la transmission de la mémoire collective, de la mémoire populaire, cette mémoire ne retient pas des personnages historiques, mais des archétypes, comme on dit. Or, dans le cas de Gilles de Rais, c'est acte sexuel, viol et assassinat d'enfants. La mémoire collective retient l'élément sexuel plus fort que celui des enfants. Dans la mémoire collective, on trouve des ogres qui mangent des enfants, des sorciers qui tuent des enfants, mais il n'y a jamais, à grand jamais, des individus, hommes ou femmes, qui violent des enfants. Donc, le viol est une nouveauté, mais il est et l'assassinat qui suit, et c'est ainsi que la figure de Barbe Bleue, qui est le mythe de l'assassin de femmes, accapare, phagocyte la figure de Gilles de Rais, qui est identifié dorénavant à ce personnage. Ceci, j'ai suivi les sources depuis la fin du XVIIIe siècle. On rencontre des témoignages. J'ai mis en valeur celui de Fouché, le beau-père de Victor Hugo, qui me paraissait moins connu. Les bourgeois de Nantes et des alentours, mais aussi bien les paysans de Pouzauges, etc., disaient « c'est le château de Barbe Bleue ». Ils ne disaient jamais « le château de Gilles de Rais ». Le château de Barbe Bleue qui tuait des femmes.
Oui, je crois un très bel exemple de télescopage, de mythe dans l'histoire de la longue durée, et bien entendu, à Gilles de Rais, Barbe Bleue ajoute et substitue aussi cette barbe que Gilles de Rais n'avait pas, et cette barbe bleue de cette couleur dont Michel Pastoureau nous a montré qu'elle était à la fois la couleur de la Vierge, la couleur des rois de France, mais qu'elle pouvait être aussi la couleur des assassins. Nous retournons, si vous le voulez bien, à Gilles de Rais pour conclure notre émission. Et c'est le troisième texte que Matei Kazaku propose à nos auditeurs. C'est un extrait de la chronique d'Enguerrand de Monstrelet qui date de
1453, c'est l'année de la mort.
Nous sommes donc très près de la vie et de la mort de ce monstre historique.
Comment un très grand seigneur de Bretagne, nommé le seigneur de Rais, fut accusé d'hérésie. Comme il confessa avoir fait mourir plusieurs enfants sous âge et femmes enceintes sur intention de parvenir à aucune hauteur et commandement et aussi honneur désordonné. Après qu'il eut été pris et diligemment examiné, et aussi qu'il eut reconnu tout son fait d'en avoir fait mourir par cette mauvaise manière jusqu'au nombre de 160 ou plus, il fut, en la présence du duc de Bretagne, par sage et notable juge, condamné à être pendu et étranglé tant qu'il fut mort, et après tout son corps, ars en un feu. Et était présent, avec le dit duc, très grand nombre de grands seigneurs et autres nobles hommes, tant séculiers comme clercs. Et fut faite cette condamnation et aussi l'exécution en la ville de Nantes, en Bretagne. Toutefois, après la dite exécution, première accomplie, et qu'il fut mis au feu et en partie brûlé, il y eut des dames et damoiselles de son lignage et amitié qui requirent au-dessus dit duc de Bretagne d'avoir le corps pour le mettre en terre sainte, lequel duc leur accorda et y fut mis.
Vous venez d'entendre les Lundis de l'Histoire présentés ce matin par Jacques Le Goff. L'équipe technique était composée de Pierrette Perronneau et d'Isabelle Limousin. Les textes ont été lus par Jean-Pierre Lhomme.